Laudetur Jesus Christus.
L'évangile n'est pas multiple mais un, et il est l'accomplissement des promesses, le salut offert à tous les hommes. Le pape François l'a rappelé ce matin lors de l'audience générale, renouant avec le cycle de catéchèse sur la lettre de saint Paul aux Galates. Le Saint-Père qui a lancé un appel en faveur de la reconstruction du Liban, un an après l'explosion sur le port de Beyrouth, le pays du cèdre pleure toujours ses morts, alors que l'enquête sur ce drame est au point mort, éclairage dans quelques instants. L'actualité est aussi dominée ce mercredi par l'Afghanistan, où les talibans étendent leur emprise. Ils ont revendiqué les attaques qui ont frappé hier Kaboul, la capitale. L'armée a lancé une offensive dans la ville de Lashkarga, au sud du pays. Au sommaire également, l'inquiétude exprimée par les Nations Unies face à la situation politique en Tunisie. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a appelé à préserver les progrès réalisés ces 10 dernières années en termes de réformes démocratiques.
Radio Vatican, le journal Hélène Destombes.
Bonjour, reprise des audiences générales ce mercredi 4 août. Devant les fidèles et pèlerins réunis en salle Paul VI au Vatican, le pape François a renoué avec le cycle de catéchèse sur la lettre de saint Paul aux Galates, initié juste avant la pause estivale. À l'école de l'apôtre des gentils, François a centré son enseignement sur l'unicité de l'évangile. Les précisions de Manuela Figi.
Saint Paul est un passionné de l'évangile. Toute sa vie est une tension vers son annonce et vers la mission. On comprend donc sa tristesse et sa déception quand la communauté des Galates prête l'oreille à de nouveaux prédicateurs qui annoncent un autre évangile, peut-être plus sophistiqué ou intellectuel, mais qui n'est pas le vrai évangile, qui est un, celui de Jésus-Christ, celui qu'annoncent Paul et les autres apôtres du Seigneur. C'est dans cette perspective que doit se comprendre la sévérité de Paul à l'égard des Galates, car ce nouvel évangile menace les fondements de la communauté.
Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è, come è stato annunciato, o ricevi qualsiasi altra cosa.
La vérité de l'Évangile ne peut être négociée, soit vous recevez l'Évangile tel qu'il est, tel qu'il a été proclamé, soit vous recevez autre chose. Il ne peut y avoir de compromis. La foi en Jésus n'est pas une monnaie d'échange, elle est salut, elle est rencontre, rédemption. Elle n'est pas vendue à bas prix, a martelé le Saint-Père, qui rappelle l'importance du discernement. Souvent, des mouvements prêchent l'Évangile à leur manière, mais d'exagération en réduction. L'Évangile du Christ devient celui du fondateur ou de la fondatrice et se coupe ainsi de ses racines. C'est pourquoi, a conclu François, la parole claire et décidée de Paul fut salutaire pour les Galates et elle est salutaire également pour nous.
Manuela Affigi. Et lors de cette audience générale, le pape a évoqué l'explosion survenue sur le port de Beyrouth il y a tout juste un an, appelant la communauté internationale à aider le pays du cèdre à se reconstruire avec des gestes concrets. Ma pensée se tourne vers ce cher pays, surtout vers les victimes, leurs familles, les nombreux blessés et tous ceux qui ont perdu leur maison et leur travail, a-t-il déclaré. Une rencontre internationale de soutien à la population libanaise est organisée aujourd'hui par la France et les Nations Unies. Le Saint-Père a souhaité qu'elle soit fructueuse. Le président français Emmanuel Macron a promis 100 millions d'euros de nouveaux engagements en appui direct à la population libanaise. La double explosion le 4 août 2020 sur le port de Beyrouth a fait 216 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise. Un an après ce drame, l'enquête n'a toujours pas abouti en raison notamment de l'immunité dont bénéficient les responsables politiques et les hauts fonctionnaires. Le chef de l'État, Michel Aoun, s'est dit hier prêt à répondre aux questions du juge dans l'espoir de faire avancer les investigations. Paul Ralifé.
Un an après le drame, de nombreuses questions restent sans réponse, renforçant le sentiment d'injustice chez les familles des victimes. On ne sait toujours pas avec exactitude ce qui a provoqué la double explosion, ni la quantité de nitrate d'ammonium qui a explosé. Surtout qu'un rapport du FBI publié fin juillet révèle que seul le quart des 2700 tonnes stockées au port a causé la déflagration dévastatrice. Autre mystère, à qui était destinée la cargaison et qui est son propriétaire? Les explications avancées sont contradictoires. Certaines disent que les explosifs avaient été commandés au profit des rebelles syriens, d'autres assurent qu'ils devaient aller au régime. Si la partie technique de l'enquête est peu connue, la dimension politique, elle, est beaucoup plus claire. Le juge d'instruction chargé de l'enquête a engagé des poursuites début juillet contre une douzaine de hauts responsables politiques et sécuritaires. Parmi eux figurent le premier ministre démissionnaire Hassan Diab et quatre anciens ministres, dont trois députés en exercice. Mais la procédure a été bloquée par le refus du Parlement de lever l'immunité de ses membres, inculpés pour négligence et manquement. Dans ce contexte, Human Rights Watch a accusé mardi les autorités libanaises de négligence criminelle, de violation du droit à la vie et d'obstruction à l'enquête. L'ONG recommande une mission d'investigation indépendante de l'ONU et des sanctions internationales contre les hauts responsables libanais. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
L'armée israélienne a procédé ce matin à des tirs vers le Liban. Elle affirme avoir riposté à trois attaques à la roquette ayant visé son territoire près de la frontière. Des tirs de roquette qui n'ont pas été revendiqués. L'actualité est également dominée ce mercredi par l'Afghanistan où les talibans étendent leur emprise. Ils ont revendiqué l'attentat suicide perpétré hier à Kaboul. L'attaque et ses deux explosions dans un quartier ultra sécurisé de la capitale afghane a fait 5 morts et 20 blessés. Elle a été suivie ce matin par l'explosion d'une mine qui a fait 3 blessés. Cette démonstration de force des talibans intervient au moment où le retrait des troupes étrangères fragilise le gouvernement afghan et son armée. Les précisions de Jean-Charles Puzolu.
C'est bien l'objectif des talibans, déstabiliser un peu plus les forces gouvernementales au moment où elles se retrouvent le plus en difficulté après l'annonce du départ des soldats américains, leur principale source de soutien dans le conflit qui les oppose aux talibans. Depuis l'annonce de ce retrait, les talibans ont multiplié les offensives et contrôlent aujourd'hui une grande partie du territoire. Ils s'attaquent maintenant aux grandes villes, dont trois au moins sont en proie à de violents combats, Kandahar, Herat et Lashkarga. Cette dernière est la plus combattue. Les rebelles sont entrés en ville, les habitants se terrent ou tentent de fuir, pris en étau entre les tirs talibans et les bombardements aériens de l'armée. Le président afghan avait annoncé lundi l'envoi de renforts à Lashkarga et l'armée serait sur le point de lancer une contre-offensive. La perte de la capitale de la province du Helmand serait un coup dur pour le gouvernement qui s'est engagé à défendre les centres stratégiques après avoir perdu de nombreux districts ruraux. Les combats à Lashkarga sont d'une extrême violence. Les talibans ont pris le contrôle de certaines stations de radio et de télévision et s'installent dans les maisons pour empêcher les gens d'aider les forces gouvernementales. Il y aurait déjà eu plus de 40 morts parmi les civils, selon les Nations Unies.
Jean-Charles Puzolu. Ankara est vivement opposée au projet américain prévoyant de recourir à des pays tiers pour relocaliser des milliers d'Afghans. La Turquie concernée affirme ne jamais avoir été consultée. Elle craint un nouvel afflux de réfugiés d'Afghanistan avec le retrait imminent des troupes américaines. Le pays compte déjà plus de 4 millions de réfugiés sur son sol, la plupart venus de Syrie. Le contexte actuel en Tunisie inquiète les Nations Unies. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a exprimé hier sa préoccupation lors d'une conversation téléphonique avec le ministre tunisien des Affaires étrangères. Dans le même temps, elle a réitéré son offre d'assistance au pays. Les explications de Mohamed Haddad.
La porte-parole du commissariat onusien des droits de l'homme a affirmé son inquiétude au sujet de la Tunisie. La situation est inquiétante et nous espérons que tous les progrès réalisés ces 10 dernières années puissent être préservés. Cette déclaration fait suite à l'appel de Rothman Gerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, à Madame Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme à Genève. Il s'inscrit dans toute une série de conversations pour rassurer les interlocuteurs après le coup de force du président tunisien le 25 juillet. Raïssa Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet et a suspendu le Parlement en affirmant vouloir sauver la Tunisie, rongée par des mois de blocage politique et un nouveau pic meurtrier du Covid-19. Rafmen Jlandi a fait état de conversation depuis une semaine avec le ministre français des Affaires étrangères, son homologue italien, portugais, belge ou américain. Il a défendu dans ses appels le bien fondé des mesures prises par le président Saïd et a assuré du choix irréversible de la démocratie et des libertés. Tunis, Mohamed Haddad pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, les médecins suspendent leur mouvement de grève après 3 semaines de mobilisation. Une annonce faite à l'issue de négociations avec le gouvernement qui s'est engagé à verser des primes aux médecins. La fin de cette grève intervient alors que le pays fait face à une 3e vague inquiétante de la pandémie de Covid-19. L'athlète biélorusse Kristina Tsimanouskaya a quitté les JO de Tokyo. Elle est attendue dans les prochaines heures à Vienne avant de s'envoler pour la Pologne, Varsovie lui accorder un visa humanitaire. Elle avait affirmé dimanche dernier avoir échappé à un rapatriement forcé au Bélarus. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.